Bonjour à chacun. Merci pour votre accueil. Merci pour les bonjours aussi, parce que parfois les orateurs disent bonjour et le public ne répond pas. Je suis très heureux d'être là dans cette église, dans cette jolie petite église. Alors Marc l'a dit, j'habite Saint-Julien-en-Genevois. En fait, je suis originaire d'Annemasse, mais j'ai beaucoup bougé. Et après une formation d'instituteur, je suis parti à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, où j'ai rencontré Viviane. Donc c'est à cause de Viviane que je suis là, mais ce n'est pas à cause d'elle si la prédication est mauvaise. Après mes études à Vaux-sur-Seine, je me suis tenté un peu au pastorat, et puis assez rapidement, en fait, j'ai travaillé pour l'association dans laquelle je m'étais converti, dans laquelle je m'étais donné au Seigneur. C'est Jeunesse Ardente en France, c'est Contact Jeune en Suisse, si vous connaissez Contact Jeune. Et donc, c'est là que j'ai rencontré le Seigneur, alors que j'avais 12 ans. 12-13 ans, et que depuis ce moment-là, l'amour pour la Bible m'a jamais lâché. Après avoir travaillé pour Jeunesse Ardente, j'ai travaillé pour Juifs pour Jésus, à Paris, mais on s'occupait aussi de la Suisse. Et après Juifs pour Jésus, j'ai décidé de continuer mes études en faisant un doctorat à Londres. Et après le doctorat, en fait, on a eu deux autres enfants. On s'est un peu enraciné en Angleterre, ce pays très accueillant. Et puis donc, finalement, après, j'ai travaillé pour Compassion International, pour le Royaume-Uni. Et puis, c'est quand ma femme a eu l'appel pour aller être pasteur de l'église évangélique baptiste de Genève qu'on est rentré dans la région. Et donc, je suis un peu l'homme au foyer. Je m'occupe plus des enfants parce que ma femme a le plein temps. Mais je prends une moitié de mon temps pour être consultant en auto-entrepreneur. Alors, comme c'est Viviane qui m'a invité, et que nous sommes rencontrés dans les études de théologie, mais que nous travaillons ensemble maintenant à la Maison de la Bible, pour quelques travaux, et notamment une révision de la Bible, la seconde 21, je pensais que c'était propice que je fasse une prédication telle que celle-ci. D'abord pour honorer Viviane, qui est très discrète, très humble, mais qui fait un travail fantastique. Et je suis admiratif pour tout ce qu'elle fait au sein de la Maison de la Bible et puis de la Société biblique de Genève. Et donc, je vous demande de prier pour elle dans son travail. Alors, quand on révise une Bible, on dit « Mais pourquoi il faut réviser encore une la Bible ?» Mais c'est parce que le langage évolue. La plupart du temps, c'est cela. Le langage évolue, il y a des expressions qu'on ne comprend plus. Mais aussi, parfois, on s'est aperçu avec les recherches qu'il y a des mots qui sont mal traduits ou des expressions qui sont mal traduites. Et c'est ce que je pense qui est le cas dans notre... Dans le texte que nous allons voir. C'est pas courant, mais ça arrive. Proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. En fait, il y a une vingtaine d'années, alors tout jeune prédicateur, je prêchais dans une église sur un tout autre sujet. C'était sur Moïse, qui n'avait pas la langue qu'il fallait pour pouvoir parler au Pharaon. Et puis, au détour de la prédication, j'ai dit, de toute façon, je ne pense pas que toutes les occasions soient bonnes pour témoigner de Jésus. Voilà ce que j'ai dit. Et tout d'un coup... Alors, est-ce que c'était dans mon esprit ou une réponse de la salle? Je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir dit une bêtise. Et tout d'un coup, dans mon esprit, je dis, mince, mais c'est vrai, il y a ce verset de Timothée 4.2. Proclame la parole en toute occasion, bonne ou mauvaise. Tout d'un coup, j'ai un peu tremblé, j'ai fini ma prédication. Et je me suis dit, il faudra que j'y retourne. C'était il y a 20 ans. En fait, quand on est croyant en Jésus, on a envie de partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est normal. On ne veut pas le garder pour nous. Et pourtant, ce verset, quelque part, me mettait mal à l'aise. Déjà il y a 20 ans. Un des premiers versets que j'ai appris, alors que j'étais à Jeunesse Ardente et qu'on apprenait les versets des navigateurs, je ne sais pas si vous avez connu les navigateurs, mais on apprenait une soixantaine de versets par cœur, et ce verset est un des premiers que j'ai appris, car je n'ai point de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je ne savais pas à l'époque, quand j'avais 15 ans que je prenais ce verset, que j'allais faire ma thèse de doctorat sur ce verset. Mais je me souviens que dans mon enthousiasme, après avoir appris ce verset, je voulais parler de Jésus à tout va. Hein, dans ma famille, avec mes amis, à la moindre occasion, hein, bonne ou mauvaise. Et je me suis aperçu que j'ai commencé à agacer les gens. À trop parler de Jésus. Et progressivement, je suis devenu plus sage. Je me suis dit, il faut faire attention à la manière dont tu parles de Jésus. Puis est venue la faculté de théologie. Et là, de nouveau, j'ai rencontré des gens qui étaient si passionnés qu'ils parlaient de Jésus tout autour d'eux. On avait même des futurs évangélistes, hein, ces personnes qui vont haranguer les foules, hein, dans la rue ou dans des événements. Vous me dites, hein, si je dois faire quelque chose pour le micro, non? Et donc, je me souviens que j'avais des amis, Vaux-sur-Seine et dans la région parisienne, et on prenait le train entre la gare Saint-Lazare à Paris jusqu'à Vaux-sur-Seine, il y a une cinquantaine de kilomètres, trois quarts d'heure, et je voyais ces gens qui arrivaient à parler avec leurs voisins, et le voisin qui repartait avec un traité sur Jésus, et ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais c'est vrai, ils font bien. Et j'avais un petit peu honte de ne pas parler plus de Jésus. On voit que entre agacer les gens en parlant trop de Jésus et en ne parlant pas, il doit certainement y avoir un juste milieu. Il n'est pas simple de témoigner. Et si l'on croit fermement à la puissance de l'Évangile, on a du mal dans la pratique à savoir comment faire pour annoncer l'Évangile. Et je trouve que ce verset de 2 Timothée 4.2 peut peut-être nous culpabiliser en disant « mais il n'y a aucune occasion mauvaise ». Vous pourriez croire qu'il y a des occasions mauvaises. Non, il n'y a aucune occasion mauvaise. Et donc il y avait entre ce verset et mon expérience comme une incohérence, comme quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Et comme la parole de Dieu pour moi, c'est la parole de Dieu, elle est vraie, véritable dans tout ce qu'elle dit. Dans chaque mot, c'est important de suivre cette parole. Alors, nous allons prendre la lecture de 2 Timothée 4.2. Alors, j'ai choisi la nouvelle Bible Second, et qui montre l'expression telle que je veux la discuter. Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts. Paul s'adresse à Timothée. Et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient et dans ton enseignement. car il viendra un temps, où ils ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leur propre désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et dévieront vers les fables. Pardon. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, annonce la bonne nouvelle, assure pleinement ton ministère. Quant à moi, en effet, je suis déjà répandu en libation et le temps de mon départ est arrivé. J'ai mené le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps à discuter le contexte de cet épître, si ce n'est les principales choses qui sont importantes. Paul semble l'avoir écrite vers 66 après Jésus-Christ, peu de temps avant de mourir, et peu de temps avant la destruction de Jérusalem qui aura lieu en 70. 70, la destruction de Jérusalem, au 1er siècle, est capitale. Je crois que dans nos milieux évangéliques, on n'y pense pas assez. Alors, si on étudie un peu l'Ancien Testament, on va parler de la destruction de Jérusalem en 586, hein. On va parler de 722 avant Jésus-Christ avec la Samarie, on va parler de la reconstruction du Temple, et on ne parle pas trop de la destruction du Temple en 70. Et pourtant, c'est capital. Cet événement, c'est l'équivalent de la Shoah pour les Juifs du XXe siècle. C'est aussi fort. Timothée est certainement le disciple le plus fidèle de Paul. Et les deux lettres que nous possédons, en fait, donnent des conseils à ce disciple pour que Timothée puisse être à même d'aider à l'organisation de l'Église en plein développement. Timothée doit être capable de former des nouveaux pasteurs, d'organiser des nouvelles églises, respecter l'enseignement transmis par Paul, lutter contre les hérésies. Voilà le contexte de cet épître. Et donc, déjà, c'est très important de le voir, c'est que ces mots-là, ils sont pas adressés à nous, premièrement. D'accord ? C'est pareil dans les milieux évangéliques, nous avons tendance à lire la Bible comme si elle était écrite pour nous, au XXe siècle. Oui, mais pas premièrement. D'accord ? Tout ce que nous lisons, hein, tous les textes de l'Ancien Testament, tous les textes du Nouveau Testament, ont été écrits dans un contexte particulier et à des personnes particulières. Et quand Paul écrit cette parole, il s'adresse à Timothée. Donc, il s'adresse à une personne avec un rôle bien défini, qui sera formateur de pasteurs, développeur d'église, quelqu'un qui va lutter contre les hérésies, qui va proclamer l'enseignement, etc. Et donc, ce n'est pas premièrement à nous. En tout cas, ce n'est pas premièrement aux chrétiens moyens, aux croyants moyens que nous pouvons être. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, faisons attention, mais pour qui elle a été écrite ? Pour qui ce texte a été écrit ? Et non pas, ah bah tiens, voilà ce qui est écrit, je dois faire ça. Voilà, ça c'est le premier avertissement qu'il faut avoir en tête à chaque fois qu'on lit la Bible. C'est seulement après avoir compris pourquoi ce texte a été écrit en ce temps-là, à ces gens-là, que nous pouvons faire une extrapolation et se demander, mais qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Et nous allons voir qu'en fait, ce texte peut nous parler pour nous, chrétiens moyens. Alors, pour cela, on va faire un peu de grec. Alors, c'est pas pour se la jouer en disant, ah, voilà, je connais du grec, je vais faire du grec. C'est parce que c'est capital dans ce passage-là. Et c'est vrai que si c'est une tentation, hein, en sortie de faculté de théologie, hein, les prédicateurs, ils utilisent du grec, sans parfois que ça soit vraiment très utile. Là, c'est très utile. D'accord ? Et j'espère que je vais y aller pas à pas, ça va être très simple. j'espère, et vous apprendre quelque chose. Dans ce verset, Paul utilise deux mots hein, qui ont été écrits en toute occasion, bonne ou mauvaise, hein, hein, c'est cette expression. Paul utilise deux mots que nous allons devoir définir et qui donnent les occasions, l'occasion favorable et l'occasion défavorable. Mais auparavant, nous allons nous pencher sur trois notions grecques du temps. D'accord ? On parle souvent de différents mots pour le mot amour, mais pour le mot temps, il y a d'autres mots. On va parler de trois mots grecs qui expriment le temps. Alors que Jésus, après sa résurrection, demande à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, ceux-ci lui demandent « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Et Jésus leur répond « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments, chronos et kairos, que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pareil, tout étudiant en théologie va rapidement être confronté à ce verset, puisque c'est le verset où on voit deux notions de temps qui sont différentes, employées dans la même phrase par Jésus. Nous en verrons un troisième, mais donc ces deux mots, c'est « chronos » et kairos. Et le troisième que nous verrons, c'est éon. Et à part quelques exceptions où il est difficile de voir la différence, en général, chronos concerne le temps qui coule. C'est pour ça qu'on utilise le mot chronomètre ou chronobiologie. Alors que le mot kairos exprime l'époque, la saison ou le moment, parfois opportun, d'où occasion. Et on le voit dans ce verset, on a traduit les temps et les moments, c'est tout à fait juste, chronos et kairos. Alors, chronos, le temps qui s'écoule. Quelques exemples dans la Bible que vous connaissez. Le temps de l'apparition de l'étoile lors de la naissance de Jésus, c'est le mot chronos qui est utilisé. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Demande Jésus au Père du Fils à l'Esprit muet. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Dans les derniers temps, il y aura des railleurs. Le diable sera relâché pour un peu de temps. Chronos, hein, ce temps qui coule et qui se montre à un temps précis. Kairos, le temps de l'époque, la saison, le moment ou l'occasion. Alors, je peux pas vous donner des mots en français qui, comme chronobiologie ou chronomètre, utilisent le mot kairos. On a rapidement évacué ce mot. D'accord ? On avait chronos pour le temps, on s'est dit, on ne va pas utiliser kairos. Et même les Grecs, aujourd'hui, les Grecs modernes, utilisent kairos seulement pour la météo. Hein ? Vous voulez savoir la météo, kairos ? Parfois l'époque. Hein ? À mon époque, ils vont utiliser kairos. Ou des choses comme ça. Mais on utilise presque plus le mot kairos, même dans le grec aujourd'hui. Et puis, c'est pour ça qu'en français aussi, on n'a aucune... Je n'ai pas trouvé de mot qui rappelle cette origine. Mais c'est le temps de l'époque, la saison, le moment ou l'occasion. L'Esprit dit à Jésus, « Es-tu venu nous tourmenter avant le temps, avant le moment ?» Alors là, on aurait très bien pu avoir chronos. Hein. Qu'est-ce qui fait que kairos a été utilisé ? On ne sait pas très bien, mais ça montre que des fois, c'est difficile. Le moment est arrivé et le règne de Dieu s'est approché. Ce n'était pas la saison des figues. Ça, on comprend beaucoup mieux. Hein. C'est le temps de la saison, du moment. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment, sous-entendu favorable, hein, la bonne occasion qu'il aura, qui sera la croix. Jérusalem sera piétinée par les païens, jusqu'à ce que le temps, la saison des nations soit accomplie. Là, on comprend bien, on est dans la saison des nations actuellement, hein, ce temps des nations qui dure. Jésus dit « Mon temps n'est pas encore venu ». Dans les derniers jours surviendront des temps difficiles, hein, c'est un peu plus vague, hein, que quelque chose de précis. Le diable est descendu vers vous, emporté de fureur, sachant que peu de temps, hein, c'est une question de durée, hein, peu de temps, de moment opportun ne lui reste. Donc, Chronos Kairos, vous voyez un petit peu la différence ? Hein, c'est subtil, mais ça va être important pour la suite. Et puis le troisième, ça c'est plus pour votre culture, c'est le mot éon, qui veut dire le siècle, l'âge, le monde, l'éternité. Hein, c'est quelque chose de très qui est polysémique. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. En fait, on pourrait très bien dire jusqu'à la fin de cet âge. La fin de cet âge. Pour les disciples de Jésus, ça pouvait dire que ben, cet âge, il allait finir par exemple avec la chute de Jérusalem, où toute l'ancienne alliance allait être finie. C'est un âge, l'ancienne alliance. Après, il y a la nouvelle alliance, c'est un autre âge. Donc, vous voyez, hein, c'est difficile hein, de traduire. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes d'autrefois. Hein, c'est vague. Voilà ce que déclare le Seigneur qui a fait des projets depuis longtemps. À lui soit la gloire dans tous les temps. Ton trône est établi pour toujours, pour les siècles des siècles. Hein, vous connaissez cette formule hein, que dans l'Église catholique, on répète encore plus. Jésus lui dit, en vérité, je vous le déclare, personne n'aura laissé mère, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et à cause de l'Évangile sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, Kairos, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ avec des persécutions et dans le monde à venir, hein, le monde à venir, éon, la vie éternelle. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, je ne vais pas vous perturber, mais c'est juste pour vous donner une autre perspective, hein, vous dire que le temps peut être exprimé sous différentes formes. Alors, ce qui complique un peu la chose, c'est que bon, vous avez compris ce que c'était Kairos et Chronos, mais ce n'est pas Kairos et Chronos qui sont utilisés, c'est Eukairos, et Akairos. Alors, ce sont des adverbes. Eukairos a un préfixe e qui signifie bien et bon. On le retrouve, hein, vous les employez tout le temps, le mot euphorie, hein, porter le bien. Euphémisme, parler bien. Eugénisme, engendrer bien. Et en fait, la seule autre mention de cet adverbe eukairos dans la Bible, c'est la trahison de Judas. À cette nouvelle, les grands prêtres se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait comment il le livrerait au bon moment. D'accord ? Donc on voit cette idée d'occasion. Donc, de Timothée 2, hein, bon, c'est le bon moment, c'est la bonne occasion. D'accord ? Donc ça, c'est eukairos, hein, le bien. L'autre adverbe hein, qu'on a traduit par occasion défavorable, c'est akairos. C'est un autre adverbe qui est utilisé uniquement dans ce verset et qui a le préfixe a, privatif. Et vous le connaissez aussi. On parle de aphonie, de plus avoir de voix. Être aphone, c'est plus avoir de voix. On parle d'apatride, de plus avoir de patrie. On parle d'apathie, de plus avoir d'émotion. Si ce mot akairos est utilisé seulement ici, il est toutefois utilisé dans une version grecque de l'Ancien Testament et qui possède plus de livres que ceux que l'on a dans nos Bibles. Ce sont la version des Septante, qui a été traduite en grec et qui est reconnue par les catholiques. C'est un texte qui s'appelle le Siracide. Donc, nous, évangéliques, on les appelle, on ne croit pas que c'est canonique, on les appelle des livres apocryphes. Les catholiques vont dire que ce sont des livres canoniques, mais un peu différents, donc ils les appellent deutérocanoniques. Hein. Ils n'ont pas la même, tout à fait la même valeur, mais ce livre est intéressant parce qu'il emploie l'expression. Et donc, quand on fait de la recherche, on aime bien savoir ce qui, à l'époque, les mots, comment ils étaient utilisés. Il faut savoir que tous les disciples, les apôtres du Nouveau Testament, ils avaient comme Bible 7 Septante. Hein, c'était leur Bible. Et c'est pour ça que quand ils citent l'Ancien Testament, ils vont citer l'Ancien Testament grec qui vient de cette Septante, à part quelques exceptions. Et donc, Paul connaissait ce mot. Il connaissait le Siracide, l'Ecclésiastique. Alors, ce livre a été... est-ce que j'ai la date, là? On pense qu'il a été écrit vers 180 avant Jésus-Christ par le scribe Jésus ben Sira, hein, d'où le nom le Siracide. Et Jésus ben Sira cherchait à défendre le judaïsme face à la tentation de la culture grecque. Voilà. Et dans le texte que nous allons lire, voilà ce qu'il dit. Alors, il donne des conseils à des personnes, comment se comporter quand il y a une fête, un banquet. Voilà le contexte de ce texte. Si on t'a choisi pour présider, ne va pas prendre de grands airs avec les autres, comporte-toi comme l'un d'eux. Occupe-toi d'eux et après seulement, va t'asseoir. Ayant rempli tous tes devoirs, prends ta place pour pouvoir jouir de la satisfaction et te voir couronné pour ton parfait comportement. Parle, vieillard, car cela te revient. Dis exactement ce que tu sais, mais n'empêche pas la musique. En gros, il y avait de la musique, et puis les gens, ils étaient là pour écouter. C'est comme si on écoutait la harpe, et puis tout d'un coup, on commençait à parler. On veut écouter la musique, d'accord ? Donc il lui dit, alors fais attention quand tu parles et qu'il y ait de la musique, parce que les gens, ils veulent écouter la musique. Pendant l'audition, ne te répands pas en discours et ne fais pas à contre-temps, à Kairos, étalage de ta sagesse. Donc ça, c'est la version de la Tob. Vous savez que la Tob a mis ses livres deutérocanoniques dans sa Bible, parce que c'est une traduction écuménique, hein, donc c'est catholique et protestant. Et donc, ils ont traduit le mot ici par « à contre-temps ». Et d'ailleurs, dans 2 Timothée 4, 2, ils utilisent aussi « à contre-temps ». Donc, ne fais pas à contre-temps, étalage de ta sagesse. En gros, quand tu parles de quelque chose, eh ben, il faut le dire au bon moment. Parle, jeune homme, si tu dois le faire, mais deux fois au plus, et si l'on t'interroge. Parle succinctement, dis beaucoup en peu de mots. Sois comme l'homme au courant, qui pourtant ne dit rien. En compagnie des grands, ne cherche pas à t'imposer, et là où il y a des vieillards, ne pérore pas trop. Comme l'éclair devance le tonnerre, ainsi la grâce précède l'homme réservé. En gros, des conseils, et dire, mais ne parle pas trop, ne te mets pas trop en avant, parle au bon moment, etc. Et on comprend bien le sens de Akairos dans ce cas. Hein, il ne faut pas parler au mauvais moment. Okay. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la série The Crown, qui raconte l'histoire... de la royauté anglaise. Alors nous, quand on habitait en Angleterre, on s'est un peu intéressé à la royauté. Et donc, il y a cette série qui est très, très bien faite. Et notamment, on voit des repas en famille. Donc, la reine est là, il y a les princesses, les princes. Et ce qui est très frappant dans ces repas, c'est que tout le monde ne parle pas en même temps. D'accord ? Chacun parle à un moment donné. Et il faut, l'art, dans cette aristocratie anglaise, c'est de dire... pas une blague, mais avoir l'humour nécessaire pour dire quelque chose qui va avoir touché sa cible. Mais si vous parlez à contre-temps, vous vous faites avoir. Et d'ailleurs, Diana, en France, la princesse Diana, on la voit qu'elle se trompe. Hein, elle connaît pas les us et coutumes et elle parle quand il faut pas. Bref. Et donc, c'est tout à fait ça, hein, les mêmes conseils, ou parler au bon moment. Et c'est là qu'on va revenir au contexte immédiat de ce verset et le relire. Et là, je prends la version Tob. « Je t'adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus qui viendra juger les vivants et les morts. » Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, hein, qui me paraît plus juste dans la façon, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Viendra un temps, kairos, en effet, où certains ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, ils s'entoureront de quantité de maîtres, ils détourneront leurs oreilles de la vérité, vers les fables ils se retourneront. Mais toi, cependant, sois sobre en tout temps, supporte la souffrance, fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Pour moi, voici que je suis déjà offert en libation, et le temps, kairos, de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et là, on a la solution à notre problème. Si parfois il est difficile de savoir comment traduire « akairos », est-ce qu'il faut le traduire en « mauvaise occasion » ou quoi, ou « contre-temps », etc., on voit bien que, dans le contexte immédiat du texte, il est question de « kairos », il est question d'un temps. D'accord ? Et donc, l'occasion favorable n'est pas un temps de prendre l'occasion bonne ou mauvaise, mais c'est un temps propice ou non. Il faut que Timothée puisse proclamer la parole dans un temps propice ou non. Je vais préciser la chose. En fait, c'est témoigner quelle que soit la saison, bonne ou mauvaise. Alors, pour nous aider à comprendre, je vais vous donner un exemple qui aurait pu se passer dans une église telle que celle-ci. Dans les années 50, alors je crois que vous avez le bâtiment, vous n'étiez pas là dans les années 50, mais bref, imaginons que vous étiez là dans les années 50, et que vous avez l'Église nationale réformée qui est très présente, mais les années 60 se pointent. Et avec le mouvement hippie, la libération sexuelle liée à l'invention de la pilule, ça aboutira en 1968 à une révolte contre l'autorité, le capitalisme et l'austérité morale. En fait, avec 1968, on a un grand changement de kairos, de temps, de saison. Et imaginons le pasteur de cette église qui, dans les années 50, est avec son stagiaire, et lui dit « Je t'en prie, mon ami, sois courageux, proclame la parole maintenant que c'est encore facile. » En gros, une bonne saison. Mais aussi quand ce sera difficile. Quand l'autorité et l'Église seront complètement remises en cause, chamboulant et enlevant toute certitude à cette société dite chrétienne. Quant à moi, je serai témoin de la floraison de ce mouvement dévastateur. Il ne savait pas à l'époque que ça s'appellerait le postmodernisme ou la postmodernité. Mais je partirai à la retraite bien avant qu'il ait dit son dernier mot. Et donc, si vous imaginez un changement de kairos qui a eu lieu dans les années 60-70, vous pouvez comprendre ce que Paul a pu vouloir dire ici. En fait, Paul sait qu'il va y avoir un changement de temps. Ce changement de temps va être causé avec la chute de Jérusalem. Tout va être changé après cela. Les juifs, les croyants en Jésus déjà persécutés par les juifs, vont être persécutés par les Romains. Ils vont devoir fuir la Judée. Et c'est ce que dit Jésus, hein, fuyez, priez que ça n'arrive pas en hiver. La chute de Jérusalem arrive. Et donc Paul, conscient de ça, il dit à Timothée, écoute, il faut que tu proclames cette parole, quelle que soit la saison, bonne ou mauvaise. Là, peut-être que ça va assez bien. On peut encore parler de Jésus, on peut témoigner de Jésus, on peut construire des églises. Mais attends, il va y avoir un moment où ça sera beaucoup plus difficile. Et dans ce temps difficile, tu devras toujours proclamer la parole. Vous voyez ce que je veux dire ? Parler de saison n'est pas parler d'occasion. Et moi, je connais des chrétiens qui sont experts en saisissement d'occasions bonnes ou mauvaises pour annoncer l'Évangile. Par exemple, ils sont là, ils touchent la chair. « Ah, l'homme ne vivra pas Il ne faut pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit, dit Romains 8:5. Ok, oui, c'est vrai, mais bon, la chair, c'est ça. Faisons attention à comment nous manipulons les versets. C'est pour ça que, pour finir, pour notre application pratique en tant que chrétien moyen, qu'est-ce qu'on fait? Comment annoncer l'évangile aujourd'hui à nos contemporains? Comment pouvoir leur dire, mais cette parole est importante, ce que j'ai reçu, je veux que tu l'aies, parce que c'est, pour moi, c'est primordial. Je vous propose de témoigner synchronos. Alors, ce sera le dernier mot en grec, d'accord? Un autre préfixe, syn, qui veut dire avec. Hein, vous l'avez dans sympathie, hein, avec compassion. On avait apathie sans compassion, ben, sympathie avec compassion. Et synchronos, ça a donné la synchronicité. Témoignons de manière synchrone. En fait, je me suis rendu compte alors que en fait, témoigner de manière synchrone, c'est très proche de ce que le Siracide disait à la personne qui présidait les banquets. C'est dire l'évangile en peu de mots, au bon moment, avec la bonne parole, et même savoir se taire s'il le faut. Parle, jeune homme, si tu dois le faire, mais deux fois au plus. Et si l'on t'interroge, parle succinctement, dis beaucoup en peu de mots, sois comme l'homme au courant qui pourtant ne dit rien. Mais cet enseignement se retrouve aussi dans les proverbes. Qui met un frein à ses paroles est plein de savoir. Ou Jacques, pourtant que nul ne néglige d'être prompt à écouter, lent à parler. D'ailleurs, les commentateurs pensent que Jacques s'est beaucoup inspiré du Siracide dans ses épîtres. Quelle est la situation où nous nous trouvons? À qui parlons-nous? Serait-il sage de dire les choses de cette manière, avec ce vocabulaire? Quelle est la sensibilité de la personne avec qui nous parlons? Quelle situation vit-elle? Ne vaudrait-il pas mieux laisser un peu de temps pour qu'elle vienne à nous? Voilà le genre de questions que nous pouvons nous poser avant tout témoignage. J'étais frappé il y a quelques mois dans Christianisme Aujourd'hui, ce journal, hein, qui est très intéressant. Il y a des témoignages et une personne racontait comment elle avait découvert Jésus. Et elle dit, eh ben, j'avais une voisine qui était toujours joyeuse. Et quand on sortait sur le palier, qu'on se croisait, il y avait toujours le sourire, la pêche. Et elle, mais non, pourquoi cette personne a la pêche comme ça? C'est pas possible. Et un jour, elle lui a dit, écoutez, c'est quoi votre secret, quoi? Vous êtes sous des drogues ou je sais pas quoi? Et puis bon, elle lui dit, bah, écoutez, on peut en parler. Elle l'invite à un café, elle lui a parlé de Jésus. Parfois, je crois qu'on a fait des erreurs. Des personnes qui étaient en souffrance et on a cru vouloir, avec un verset biblique, les encourager, mais en fait, on a fait l'opposé. Vous voyez, chacun de nous peut avoir des situations propres. Alors, en disant ça, je ne veux pas dire que distribuer des tracts, par exemple, dans la rue, c'est mauvais. J'ai travaillé pendant 6 ans avec Juifs pour Jésus, on distribuait des tracts. Très intéressant d'ailleurs. La méthode de Juifs pour Jésus en distribuant des tracts parce que les Juifs aujourd'hui quand ils s'intéressent à Jésus se disent je dois être le seul, c'est pas possible, il n'y a pas d'autres Juifs qui croient en Jésus, parce que dans le judaïsme croire en Jésus, on ne peut pas être Juif et croire en Jésus, c'est impossible, d'accord? Et la Shoah perpétrée par des chrétiens allemands qui avaient Dieu avec nous hein, sur leur ceinturon. Pour eux, le christianisme, c'est le persécuteur. Et donc, pour ces juifs qui croient qu'ils sont les seuls, ils ont un tract dit quoi ? Il y a des juifs qui croient en Jésus ? C'est incroyable. Et donc, distribuer des tracts peut tout à fait avoir sa pertinence. J'ai moi-même encore travaillé à Jeunesse Ardente, je l'ai dit, où en fait l'évangélisation est tout à fait différente. L'évangélisation est plus une évangélisation par l'amitié. D'accord ? On va, un groupe de jeunes, on joue ensemble et puis à un moment donné, on parle. Compassion, avec l'autre mission pour laquelle j'ai travaillé, est aussi tout à fait différent. On voit la pauvreté, l'extrême pauvreté des gens et on veut les secourir. Et en même temps, ils entendent parler de l'Évangile. Ce que je viens de dire non plus ne remet pas en question ce verset. Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous demandent compte. 1 Pierre 3,15. Bien sûr, si quelqu'un nous pose la question, c'est exactement ce que le Siracide dit. Si on t'interroge, ça serait fou de dire « je ne sais pas ». Non, parlons. Jésus quand les gens nous interrogent. Alors en conclusion, quand nous lisons la Bible, il est important de considérer à qui était destiné en priorité ce que nous lisons. Ici en l'occurrence, l'épître était adressée à Timothée, un responsable d'église et non un chrétien moyen, déjà. Deuxièmement, un mot doit être considéré dans son contexte littéraire pour être bien compris. Si ici nous pourrions traduire par toute occasion, c'est légitime, il semble qu'il soit plutôt question de toute saison. D'ailleurs, j'ai regardé après les traductions anglaises disent saison, en toute saison. Mais comme ce verset en français est important, dans notre inconscient collectif peut-être, troisièmement, ainsi, ici, le responsable est encouragé à proclamer la parole, quelles que soient les circonstances de sa vie, en temps de persécution ou non. Quatrièmement, quant à nous, au lieu d'annoncer l'évangile à tout va en croyant qu'à cause de ce verset, toutes les occasions sont bonnes, alors que ce n'est pas vrai, nous ferions bien de témoigner de manière synchrone, en prenant bien compte de notre interlocuteur. Et avant de chanter le chant que j'ai choisi, et que je vais lire les paroles avant, donc tout va bien, j'aimerais prier. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que si elle a été adressée dans un contexte particulier sur 2000 ans à des personnes particulières, elle nous parle encore aujourd'hui. Elle nous aide à comprendre comment parler de toi autour de nous et notamment parler avec tact. Nos concitoyens, nos contemporains vivent des temps difficiles où ils sont perdus. Te remercions parce que nous t'avons, toi qui es la vérité, qui sais ce dont nous avons besoin. Et te remercions parce que tu nous as attirés à toi, tu as permis que nous soyons transformés et que nous puissions à notre tour partager cette parole. Donne-nous la sagesse. Donne-nous de savoir comment exactement parler de ton évangile autour de nous. Afin que les personnes, au lieu d'être agacées par notre insistance, puissent au contraire venir et poser des questions sur ce que nous vivons. C'est là notre prière. Amen.